BW. Vue d'Allemagne.
« 207 voix pour, 394 voix contre, 116 abstentions. Olaf Scholz a perdu le vote de confiance lundi dernier devant les députés du Bundestag. Et c'est tout sauf une surprise. La voie est libre pour les élections législatives anticipées en Allemagne. » En deuxième partie de ce magazine, l'intelligence artificielle au secours de l'église polonaise. Dans la ville de Poznan, la chapelle Wacina s'est équipée d'une IA pour seconder le prêtre. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue.
La motion du chancelier fédéral n'a pas obtenu la majorité requise d'au moins 367 voix. Je vais informer sans délai le président fédéral du résultat du vote.
Il aurait fallu au moins 367 voix pour remporter le vote de confiance. Olaf Scholz n'en a obtenu que 207. Comme il l'avait prévu, le chancelier a donc obtenu la dissolution du Parlement et les coudées franches pour l'organisation d'élections législatives anticipées.
C'est la sixième fois dans l'histoire de la République fédérale allemande que le chancelier a déposé une motion au nom de l'article 68 de la Constitution. Deux fois, mes prédécesseurs ont voulu confirmer le soutien à la coalition gouvernementale. Dans les trois autres cas, Willy Brandt, Helmut Kohl et Gerhard Schröder ont recouru à l'article 68 pour ouvrir la voie à de nouvelles élections. C'est aussi mon objectif avec ces nouvelles élections. Les citoyens pourront déterminer la ligne politique de notre pays.
L'organisation d'élections anticipées est devenue une nécessité pour Olaf Scholz, dont le gouvernement est paralysé depuis l'éclatement de la coalition Feu tricolore entre le Parti social-démocrate, les Verts et les libéraux du FDP. Le départ avec fracas de ces derniers, conduit par le ministre des Finances Christian Lindner, début novembre, lui a fait perdre sa majorité au Parlement. Dans une interview accordée à la première chaîne allemande ARD après le vote, le chancelier est revenu sur les raisons de la dissolution.
On en parle tout le temps et je l'ai évoqué très clairement dans ma déclaration gouvernementale. J'ai dit que le conflit a éclipsé beaucoup de choses et que cela a nuit à la réputation du gouvernement ainsi qu'à celle de la démocratie. Il s'agit d'un préjudice qu'on ne peut pas ignorer. Bien sûr, nous devons tous en tirer les conséquences. On ne peut pas se permettre que cela arrive tout le temps parce qu'il est devenu difficile de former des majorités. J'attends de ceux qui veulent former un gouvernement et savent qu'ils doivent faire des compromis, agissent comme tels, avec la décence nécessaire et la conscience qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils doivent pouvoir trouver une bonne solution ensemble et rapidement.
Le discours de 30 minutes du chancelier devant les députés du Bundestag lundi et le débat de 2 heures qu'il a suivi ont donné un avant-goût de la campagne électorale qui va accompagner les Allemands jusqu'au 23 février, date proposée pour les nouvelles élections. Olaf Scholz a défendu un assouplissement du frein à la dette, dont son ex-ministre des Finances Christian Lindner s'était fait l'ardent défenseur et a empêché la mise en œuvre de nombreux projets annoncés dans le contrat de coalition. Il a aussi accusé ouvertement son ancien partenaire libéral d'avoir saboter pendant des semaines le travail de son propre gouvernement. De son côté, Christian Lindner a attaqué son ancien patron sur sa politique financière jugée laxiste, rejoint sur ce point par le candidat désigné du camp conservateur CDU-CSU, Friedrich Merz. Ce dernier accuse le chancelier d'être responsable d'une des plus grandes crises économiques de l'histoire de l'après-guerre en Allemagne.
Il y a eu seulement 2 fois où l'Allemagne a été en récession 2 années de suite. La première fois, c'était Gerhard Schröder, mais au moins, il a introduit l'agenda 2010. La seconde, c'est Olaf Scholz. Et vous, vous êtes là et vous continuez à défendre les dépenses et l'endettement aux dépens de la jeune génération. Quant à la compétitivité de l'économie allemande, monsieur le chancelier, j'ai écouté attentivement. La notion de compétitivité de l'économie allemande n'est pas apparue une seule fois dans votre discours ce matin.
Redresser l'économie fait partie des défis auxquels l'Allemagne est actuellement confrontée, à côté de la guerre en Ukraine ou encore de la politique migratoire. Pour Robert Habeck, ministre de l'économie sortant et candidat des Verts pour les élections de février, ce n'est pas avec l'opposition conservatrice et libérale que ces défis seront relevés.
Et maintenant, ils disent qu'ils veulent faire différemment à l'avenir. Mais ils refusent de répondre à la question de savoir comment ils vont s'y prendre. Leurs idées de politique fiscale ne survivraient pas au week-end. Alors comment peuvent-ils prétendre de les mettre en œuvre ces prochaines années ?
Selon les derniers sondages, les écologistes obtiendraient entre 11 et 14% aux élections à venir. Pas assez pour gouverner seul avec le SPD, crédité de 15 à 18%. Les sondages donnent en revanche une large avance aux conservateurs de Friedrich Merz, entre 31 et 33% des voix, suivi du parti d'extrême droite AfD avec 17 à 19% des suffrages. Sa candidate Alice Weidel rejette toute alliance avec les sociaux-démocrates et avec les Verts.
L'Allemagne a besoin d'un nouveau départ, de liberté et de libre entreprise, et non de socialisme climatique.
De l'autre côté de l'échiquier politique, les signes ne sont pas non plus en faveur d'une alliance de la gauche et du centre. Interrogé par l'ARD, Olaf Scholz a donné une fin de non-recevoir à une alliance avec le BSW, le parti de Sarah Wagenknecht, issu d'une scission de la gauche radicale. Trop de différends avec ce parti, notamment sur les questions des dépenses militaires et du soutien à l'Ukraine. Le scénario d'une nouvelle GroKo, grande coalition rouge-noir, plane déjà dans les coulisses des grandes chaînes de télévision allemandes. Les chaînes publiques ARD et ZDF prévoient d'organiser début février, un débat télévisé entre deux candidats à la chancellerie, Olaf Scholz et Friedrich Merz. Une semaine plus tard, un deuxième débat est programmé par la chaîne privée RTL avec Olaf Scholz et Friedrich Merz. Selon les prévisions actuelles, les petits candidats pourraient s'affronter entre eux lors de débats séparés. Vue d'Allemagne, deuxième partie, c'est bientôt Noël et les églises se préparent à accueillir de nombreux fidèles pour la messe de minuit. Parfois, il n'y a pas assez de place pour la foule venue célébrer la naissance du Christ. Mais Noël est une exception et la plupart du temps, on trouve de quoi s'asseoir sur les bancs des églises, même en Pologne. Dans un pays considéré comme un bastion de l'église catholique européenne, seuls 7 Polonais sur 10 se déclarent encore catholiques. Un chiffre toujours élevé par rapport à la moyenne européenne, mais c'est 2 de moins qu'il y a 10 ans. Alors pour redorer son attractivité, l'institution tente de se renouveler et de moderniser son image, comme à Poznan. Notre correspondant Adrien Sarlat s'est rendu dans la chapelle Łaciny, une église 2.0 équipée d'une intelligence artificielle pour seconder le prêtre.
Pour parler avec moi, appuie sur le bouton rouge et commence à parler.
Cette voix qui résonne entre les murs blancs de la chapelle de Łaciny n'est pas celle du prêtre Radek Rakowski, mais celle de l'intelligence artificielle qui lui sert d'assistant.
Cette IA est capable de faire des sermons simples, car quand elle explique le passage d'un évangile, c'est comme si elle en faisait une interprétation rapide et qu'elle donnait des conseils sur la façon de l'appliquer dans la vie. Donc c'est une expérience assez intéressante.
Il faut dire que cette chapelle en elle-même est une expérience en soi. Ici, pas d'architecture gothique, de vitraux ou de statues de pierre. Le lieu de culte a été logé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation dans un quartier résidentiel moderne. Une surface de 100 mètres carrés séparée en deux par un rideau. D'un côté, la partie réservée à la messe et à la prière. Et de l'autre, un espace de convivialité avec une kitchenette.
On a des néons aux fenêtres et des baies vitrées qui donnent sur la rue pour que chacun qui passe devant la chapelle puisse voir ce qui s'y passe de l'extérieur. C'était très important pour nous car aujourd'hui, à l'heure où l'église est ternie par des scandales sexuels et autres, on veut être transparent. Après la messe sainte, on boit du café tous ensemble parce qu'au-delà de l'autel et du tabernacle, notre passion commune, c'est la machine à espresso autour de laquelle on se retrouve pour boire, papoter et nouer des liens.
Cet espace de partage est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les paroissiens. Ils n'ont qu'à activer une application mobile sur leur téléphone pour déverrouiller la porte.
Quasiment chaque jour, à 7 heures du matin, des fidèles viennent pour méditer au calme, ou à 22 heures après avoir couché les enfants, pour y trouver un peu de quiétude.
Et même en l'absence du père Radek, les paroissiens n'ont qu'à appuyer sur le bouton rouge du pupitre de lecture pour interagir avec l'intelligence artificielle. Le prêtre de 38 ans, qui cherche à dépoussiérer l'image de l'église, a participé au développement de cet outil pendant plus d'un an, afin de le rendre aussi pertinent que possible.
Et
on peut même poser des questions plus compliquées, par exemple, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce qu'une confession? Comment procéder pour se confesser? En général, il arrive que l'IA invente des réponses quand elle ne sait pas. Mais nous, on lui a appris à répondre « je ne sais pas, rapproche-toi du prêtre qui pourra t'expliquer ».
Selon lui, elle a aussi pour avantage de donner des réponses très factuelles sur les fondements de l'Église, sans laisser place au jugement ou à l'émotion.
Par exemple, quand on lui pose la question de l'homosexualité dans l'Église, elle ne la dénonce pas, elle ne dit pas que c'est mal, mais elle rappelle que chaque homme est créé à l'image de Dieu et mérite le respect. Et ensuite seulement, elle précise que, malheureusement, vous ne pouvez pas vous marier sous la bénédiction de l'Église en tant qu'homosexuel. Mais on vous aime et on est heureux que vous soyez là parmi nous. Malheureusement, l'Église catholique ne prodigue pas les sacrements aux couples de même sexe. Si tu as davantage de questions ou que tu veux parler de cette thématique, je t'invite à te rapprocher directement du prêtre.
Une technologie plutôt bien accueillie dans ce quartier où vivent de nombreux jeunes couples, mais même à 64 ans, Donata ne s'est pas laissée déstabiliser par l'intrusion de l'IA dans son lieu de culte.
Je suis à la page quand même. C'est nécessaire et fascinant, car on peut lui poser différentes questions, même certaines que l'on n'oserait pas poser au prêtre. Et puis c'est fait de façon éthique, et ça va dans le bon sens.
Mais alors l'algorithme risque-t-il de remplacer le prêtre un jour, au point de menacer son statut ? Le père Radek lui dit ne pas s'inquiéter outre mesure.
L'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Rien ne remplace le contact, l'amour, le regard, la relation, l'énergie qu'on dégage. Et c'est ça le plus important à l'Église. Bien sûr, en tant que prêtre, je pourrais tout expliquer à chaque fois en partant d'Adam et Ève et dérouler toute l'histoire de l'Église. Mais nous ne devons pas perdre de temps là-dessus, à une époque où chacun peut avoir accès aux connaissances par lui-même.
En juin 2023, en Bavière, l'Église allemande avait déjà confié les rênes d'une messe à ChatGPT, mais à la chapelle de Wachina, seul le prêtre est autorisé à mener l'office, ainsi que le reste des sacrements. Un système qui semble convenir aux paroissiens. Chaque dimanche, ils sont plus de 300 à se rassembler sur ces bancs. Adrien Sarlat, Varsovie, pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. C'était d'ailleurs le dernier pour cette année. Rendez-vous début janvier pour de nouvelles aventures, ce qui vous laisse le temps de vous abonner au podcast et d'écouter tous les numéros que vous avez manqués. Joyeuses fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2025. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !